Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour le grand direct du premier tour de la Draft NFL 2015 sur Touchdown Actu, l'événement NFL du printemps. Très heureux de vous retrouver pour la quatrième année de suite. Merci d'être avec nous sur Touchdown Actu. Alain Mattei au micro pour vous accompagner pendant ces 3 heures et quelques de direct. Cette année, un nouveau à côté de moi. Il remplace Guillaume Soquet, que l'on salue bien sûr s'il nous écoute. Et à ma droite, il y a donc Grégory Richard. Salut Grégory.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, nouveau sur Touchdown Actu depuis quelques semaines, on peut te lire à l'écrit. Tout et à donc fait. Début à l'oral.
Exactement, avec une grosse responsabilité sur mes épaules, remplacer Guillaume, ouais, ça peut être évident.
Et puis ceux qui te connaissent, certains te connaissent peut-être déjà aussi, sur Radio Ça.
Exactement.
Du côté de ma gauche, cette fois, pour ce dispositif, où il y a plein de gens à droite, à gauche aujourd'hui. À gauche, on a Raphaël Masmejean, salut Raphaël.
Salut à tous.
Dans le rôle du préposé au chat, comme tous les soirs de draft. Donc il sera là pour prendre vos remarques, pour transmettre votre avis et votre voix, si vous êtes sur le chat ou Twitter, il va checker aussi... régulièrement, ce qui se passe sur Twitter, @touchdownactu, et le hashtag qu'on a donné, c'était TDA Draft. Draft TDA. Voilà, je ne suis pas très fort pour les hashtags encore. Draft TDA. Raoul Villeroy, qui est à ma gauche aussi.
Hello.
L'homme qui est aux histoires dans le podcast Touchdown Actu habituellement, qui va. Il y aura peut-être une petite surprise pendant la soirée. Je ne vous en dis pas plus. On a aussi Camille Sarabène, bien sûr, à la technique. Salut Camille.
Salut.
Et je savonne déjà, il est tôt. Et caché dans un coin de la pièce, nous avons Nelson Kenyard qui est caché. Oh, il va même dire un petit coucou au micro. Allez, Nelson.
Salut, salut.
Que vous avez entendu quand il était revenu de Londres cette année. Et Nelson, il est caché dans le coin de la pièce pour s'occuper du site. Il va poster pendant que nous, on parle. Voilà pour les présentations. Nous sommes donc partis pour une soirée de draft qui va durer un peu plus de 3 heures. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous nous suivez, 32 choix, 10 minutes pour se décider. À chaque fois, les Tampa Bay Buccaneers vont ouvrir le bal avec le premier choix. Les Browns et les Saints ont 2 choix dans ce premier tour. Les Bills et les Seahawks n'en ont pas. Ça devient une habitude pour Seattle. Comme tous les ans depuis 2011, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements dans la draft. On rappelle maintenant beaucoup d'échanges. Une draft avec encore un talent assez... on va dire homogène, on va en parler un peu plus tard, mais ça pourrait provoquer beaucoup de mouvements. On vous rappelle donc le dispositif, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, nous avons des petits sons. On a un petit son qui est celui-ci pour vous signaler que Roger Goodell arrive sur le podium pour annoncer une sélection, ça nous coupera dans nos discussions. On a aussi ce petit jingle très très léger pour vous annoncer un échange, on espère qu'il y en aura beaucoup parce qu'on s'amuse toujours.
Accessoirement,
éventuellement. Et puis on aura une petite respiration en cas de coup de qu'on doit aller chercher un café ou un Red Bull éventuellement. Notre Red Bull de l'année. Bon, normalement, il y a que 3 petites respirations, c'est toutes les heures. histoire de découper ça proprement pour le podcast qui sera en ligne demain matin et que vous écoutez peut-être. Voilà, est-ce que vous êtes en forme ? On l'espère. On va faire peut-être un petit détour d'abord par le chat. Raphaël, est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce que tout le monde va bien ?
Eh bien écoute, on a beaucoup de monde ce soir, donc on vous remercie. On est à plus de 708 spectateurs, enfin téléspectateurs, audio-spectateurs, je ne sais pas trop quel est le terme à employer. 718 spectateurs.
Bon, on va pas les compter, mais oui.
Donc merci à tout le monde, bien sûr. Et puis bah, les gens sont impatients sur le chat. Beaucoup de gens attendent les choix des Eagles, forcément. Chip Kelly, ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire sauter la banque ou pas? En bon, tout cas, voilà. C'est
Grégory, je crois que. Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Grégory ou Greg à l'antenne ?
On va dire Greg, vas-y.
Greg. Donc, Greg, les Eagles, grosse intrigue de la soirée, quoi.
Grosse intrigue, surtout que. On a pu constater avant le début de cette draft qu'ils étaient prêts à mettre un petit peu tous leurs joueurs dans la balance, ouais, pour récupérer ce qui semble être l'élu, je dirais, de Chip Kelly, à savoir Marcus Mariota. En tout cas, c'est ce qui ressort des rumeurs de ces dernières heures. Donc, ouais, c'est clair que la première intrigue, ce sera de savoir à quelle place les Eagles vont sélectionner et du coup, qui vont pouvoir récupérer, parce que Mariota s'est quand même annoncé dans le top 5. Donc, sachant que les Eagles sont actuellement 20e, il va falloir mettre un petit peu de lourd dans la balance. Mais pour espérer de récupérer.
Les rumeurs, c'est que tout le monde est dispo. Hein. Parrish Cox, Evan Mathis, venez vous servir, c'est open bar à Philadelphie. Tant que vous donnez des choix de draft et que ça peut les aider à monter, eux, ils sont prêts à prendre. Donc ça, ce sera une des intrigues. Pour parler un peu de cette draft en général, Greg, t'as beaucoup suivi la saison NCAA. C'est quoi le niveau de cette draft 2015 ? Est-ce que c'est plutôt une bonne cuvée ou pas ?
Alors déjà, je vais te rassurer, c'est une bien meilleure cuvée qu'il y a 2 ans, la fameuse draft avec l'Eric Fischer, Luke Jokel et compagnie. Je la trouve peut-être un petit peu moins huppée, un peu moins dense que celle de l'an passé. Mais bon, c'est aussi dû à certains phénomènes. On remarque qu'il y a énormément de joueurs qui sont plus polyvalent que vraiment aguerri tout de suite à la NFL. Donc du coup, ça donne vraiment beaucoup de joueurs plus intrigants que rassurants, je dirais, au moment où ils vont être draftés. Voilà, on va vraiment partir sur un potentiel. Je pense notamment aux joueurs de ligne offensive, où paradoxalement, il y a beaucoup de tackles qui sont beaucoup plus spécialisés sur le run block que sur le pass pro. Et puis pareil également pour les pass rushers, enfin pour les D-end outside, ou justement des joueurs qui sont censés rusher et où on ne connaît pas trop exactement leur potentiel. Je pense à des joueurs comme Dupree ou Armstead, par exemple.
Il y a des pass rushers cette année, hein, c'est une des grandes catégories.
Mais alors pour le coup, c'était un poste qui avait l'air vraiment d'être impressionnant cette année avec un gros pool. Et on se rend compte au fur et à mesure, notamment avec les extras Shane Ray, Randy Gregory, etc., que bah finalement c'est peut-être pas une cuvée si conséquente.
Ça se dégonfle pas mal au niveau de la.
Il y a peut-être deux trois joueurs en haut du panier, on va dire, des joueurs comme Williams, comme Fowler ou comme Beasley, et derrière bon, c'est comme je le disais, des joueurs plus intrigants qu'autre chose.
Alors au niveau du tout haut de la draft, on a 2 quarterbacks qui se détachent, Jameis Winston, Marcus Mariota. Visiblement ça devrait être dans cet ordre-là, Jameis Winston, Marcus Mariota.
A priori, Jameis Winston apparaît un peu plus NFL ready, correspond un petit peu plus au prototype de joueur qu'aiment bien les scouts et les GM. Donc oui, je pense que Winston, de toute façon, est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant numéro 1, sélectionné par les Bucks. Et encore une fois, il semble le plus apte aujourd'hui à démarrer tout de suite un match NFL, ce qui n'est peut-être pas encore le cas de Marcus Mariota.
Marcus Mariota, donc, qui devrait aussi être un des grands enjeux de la soirée, et surtout, ça va sûrement débloquer beaucoup de dominos, c'est-à-dire que qui va monter en deuxième position pour sélectionner Marcus Mariota, puisque ça a l'air d'être un fait acquis que voilà, il sera deuxième. Est-ce que les Titans le prennent ? Ça n'a pas l'air d'être la tendance. Il y a eu apparemment beaucoup d'enchères. Hein. Ils ont l'air de beaucoup jouer de leur position dominante à ce niveau-là. Il y a très peu de bons quarterbacks, on le sait, en NFL. Et eux profitent de cette position, puisque visiblement, ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être au moment du choix des Titans, mais ils ont l'air de faire confiance à Zach Mettenberger pour le moment.
Oui, et comme tu le disais, on en parlait tout à l'heure, mais je ne suis pas persuadé que Marcus Mariota soit le genre de quarterback qui plaît à Ken Whisenhunt. Il aime vraiment les QB qui restent dans la poche pour grossir le trait volontairement. Et c'est pour ça que je pense en effet qu'il va compter plutôt sur Mettenberger, voire éventuellement récupérer un pocket passeur plus tard dans la draft. Il y a un joueur dont on parle pas beaucoup, c'est un joueur comme Garrett Grayson, que j'aime beaucoup, le joueur de Colorado State, et qui pourrait éventuellement, en début de deuxième tour, dépanner Tennessee, qui a pas forcément énormément de playmakers, mais qui est relativement complet à pas mal de postes.
On va le redire d'ailleurs justement, tu parlais de Garrett Grayson, la fiche est sur Touchdown Actu, n'hésitez pas, sur la une, vous avez actuellement un lien vers toutes les fiches draft que nous avons mises en ligne depuis quelques semaines. On va aussi préciser une chose, c'est que la draft n'a pas lieu à New York cette année, on est à Chicago, alors pas nous, mais on aimerait bien, mais on est actuellement à Chicago, en tout cas Roger Goodell va sur le podium, il va déclarer cette draft ouverte, et ça va être parti pour la draft 2015. Voilà, Roger Goodell. Donc on va vous décrire un peu, hein, comme tous les ans, ce qu'on voit à l'écran. On a le Game Pass et on a la NFL Network devant nous. Et on va commenter ensemble toute cette soirée. Roger Goodell, bien coiffé et bien bronzé, comme toujours. Et qui va nous expliquer un peu le déroulement des choses. Mais c'est une configuration assez atypique, hein, d'ailleurs, qu'on voit, puisque c'est en extérieur, visiblement. Roger Goodell est sur un podium, sur une scène qui a l'air d'être ouverte vers l'extérieur. C'est assez...
C'est assez original, bon, c'est vrai que la NFL nous surprend d'année en année au niveau de cette draft. Il y a également la green room, qui pour une fois n'est pas située derrière le podium, mais qui est située en hauteur, donc à l'étage. Donc voilà, ça va changer un petit peu au niveau du cérémonial habituel au moment où les joueurs vont venir récupérer leurs casquettes.
D'ailleurs, on voit moins bien, du coup, il y a beaucoup moins d'écran derrière, on voit moins bien le chrono des 10 minutes de l'horloge, enfin c'est assez... Alors, c'est d'ailleurs bizarre parce qu'on voit des images sur des contre-champs où ils ont l'air d'être dans un théâtre et il y a des images où ils ont l'air d'être en extérieur. Alors c'est assez troublant. En tout cas, il a annoncé que c'est parti, Roger Goodell. C'est ça le plus important. On est parti pour la draft 2015 et ça, c'est une bonne nouvelle. Et les Buccaneers ont donc le premier choix. Pardon, je croyais que Raoul me faisait signe qu'il avait une histoire à raconter, mais pas encore. Bon, ce sera pour tout à l'heure. Voilà, et donc les Buccaneers qui ont déjà choisi souvent en première position Vinny Testaverde en 87, Bo Jackson en 86, mais lui, il n'avait pas voulu venir. Et il avait fini aux Raiders. Et on va voir la War Room. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. En tout cas, 9 minutes 15 au chrono, donc c'est bien parti pour Tampa Bay, c'est bien parti pour cette draft. On va aller vite fait quand même sur le chat et vous demander votre pronostic pour ce choix. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Je vais vous donner celui de la mock draft de Touchdown Actu qui a été réalisé par notre ami Thomas Silva, que l'on salue évidemment, l'auteur d'un énorme boulot sur les fiches draft Touchdown Actu et sur les mock draft. Donc, Jameis Winston pour lui et pour vous.
Alors, c'est clairement un consensus sur le chat. Tout le monde voit Jameis Winston partir chez les Buccaneers. Il n'y a même pas une seule autre proposition, quoi.
Bon, que du Jameis Winston. Ouais. Personne ne veut Marcus Mariota alors.
Bah non, écoute, je regarde depuis tout à l'heure, mais Winston, Jameis, Winston.
Allez, Jameis Winston, bon, il n'y a pas un gros suspense là-dessus en théorie.
Tu peux essayer de t'en vendre en disant que, à mon sens, Tampa Bay a pas mal de besoins, mine de rien, a pas mal de postes, et que, à mon sens, le meilleur joueur de cette draft n'est pas Jameis Winston, mais Leonard Williams.
C'est ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs.
Voilà, mais c'est relativement clair. C'est vraiment un joueur qui non seulement paraît le plus aguerri aujourd'hui à jouer en NFL, mais qui a en plus le plus de potentiel. Mais voilà, en termes de besoins, quand on voit la saison qu'a fait Tampa Bay, notamment au niveau des carrières, on sait qu'ils ont absolument pas confiance en Mike Glennon. On sait que Josh McCown est parti.
Ça aurait pas pu être une option d'échanger ce premier choix contre une rançon de choix et renforcer un peu tout et donner une dernière chance à Glennon.
Peut-être, mais...
Ça m'aurait pas choqué, tu vois. Pour un mec qui a autant de casseroles que Jameis Winston, après tout...
Surtout qu'ils ont changé de coordinateur offensif et pour avoir vu à peu près Dirk Cutter évoluer à Atlanta, je pense que un joueur comme Mike Glennon, ça aurait pu lui servir maintenant... Il y a eu un petit écran de fumée ces dernières semaines autour de Tampa Bay qui éventuellement aurait eu des vues sur Marcus Mariota après un entraînement qui les aurait impressionnés, mais j'y crois pas vraiment. On sait qu'avec Jameis Winston et Tampa Bay, il y a un petit béguin depuis quelques semaines, donc je pense que ça va être concrétisé dans quelques minutes.
Il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre en théorie, il y a toujours ce faux suspense du premier choix quand il dure comme ça, on ne sait pas pourquoi ils attendent si longtemps. En tout cas...
Et puis
Camille m'a arraché une oreille.
Oui, c'est ça.
Visiblement.
C'est
ça. En m'atomisant l'oreille dans le retour, mais ce n'est pas grave. Donc oui, non, il y a un faux suspense. En tout cas, ils sont à 6 minutes 45.
Et puis ce qu'il faut signaler, ce que j'allais rajouter, c'est que, alors je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour Tampa Bay, mais il faut savoir que Lovie Smith a rarement eu de la réussite avec ses carrières. Donc là, cette année, ça va être l'occasion de voir si c'est bien un quarterback qui est choisi, de voir s'il a enfin le nez creux pour choisir le franchise quarterback de son équipe.
Alors, est-ce qu'il pourrait choisir un linebacker attendu vers la fin du premier tour? Alors, on va vous expliquer tout de suite, parce qu'il faut, on va pas vous faire des private jokes, mais on a beaucoup ri avant de prendre l'antenne sur le film Draft Day, où il draft un linebacker attendu au milieu du premier tour, en haut de la draft, et qu'après il réclame tous ses choix. Donc on a beaucoup ri là-dessus, voilà. Donc désolé.
J'ai pas vu Kevin Costner dans la War Room de
Netflix.
Voilà,
désolé pour cette petite blague, mais ce film est vraiment à voir, hein, si vous avez l'occasion. C'est très comique à son insu. Donc on attend toujours pour les Buccaneers.
Mais les Buccaneers pourraient choisir un linebacker pour le coup, pourquoi pas en début de deuxième tour, ouais. Parce qu'on sait que c'est un autre besoin qu'ils ont, avec notamment le départ de Foster, je crois, l'intersaison, qui est parti à Chicago, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et donc voilà, mais ça, comme je disais, il y a énormément de besoins, linebacker, safety, en termes de pass rusher, ils ont récupéré George Johnson récemment via un trade avec Détroit, mais c'est pas forcément un pass rusher numéro 1. Et puis également un tackle blindside qu'il va falloir récupérer après le départ d'Anthony Collins. Mais bon, ils ne prendront pas un joueur à ce poste-là en numéro 1. Je ne pense pas, en tout cas.
Mais tu parlais de tackle, c'est vrai qu'ils ont autorisé 52 sacs la saison dernière. C'était le quatrième total NFL, donc c'est clair que ça peut aider. Raphaël, je vois que ça rit beaucoup du côté du chat et de Twitter.
Bah ouais, sur Twitter, il y a pas mal de tweets pour se moquer un peu de Chip Kelly et de son envie de un peu tout vendre. On avait un tweet de notre Sports Center, donc un compte parodique, qui nous expliquait que Chip Kelly était en train de proposer également de la drogue, des enfants, son âme pour récupérer Mariota. Donc voilà.
On va beaucoup rire des Eagles, préparez-vous ce soir.
Il y a une rumeur qui parle de deux premiers tours proposés par les Eagles. Donc, bon.
En tout cas, le choix, the pick is in, comme on dit sur NFL Network, ça veut dire que le choix est dans la boîte et que Roger Goodell va arriver pour l'annoncer. Encore une fois,
ça a été relativement rapide, hein. Ça a été fait au bout de 5 minutes.
5 minutes, ouais, ce qui est plutôt correct dans les délais NFL. Là, ça devrait commencer à devenir un peu plus long, parce qu'on va forcément discuter de beaucoup plus de possibilités d'échange. J'ai entendu certains analystes expliquer, hein, que c'est le mode opératoire. Il n'y a pas d'échange officialisé ces derniers jours. Pourquoi ? Parce qu'on est surtout au stade de s'appeler à « si notre gars est disponible à ce moment-là, on fait ça. Si notre gars est disponible à ce moment-là, on fait ça. » Et c'est vrai que les échanges peuvent se déclencher selon les scénarios qui vont se dérouler aussi. Et les équipes vont se rappeler aussi... De cette manière-là pour finaliser ce qui a peut-être pu être discuté un peu ces derniers jours. En tout cas, je vois des beaux montages en tout cas de Jameis Winston avec le maillot des Buccaneers sur Twitter. Ça s'annonce plutôt pas mal. Il est déjà sorti en photo sur Madden aussi dans l'après-midi. Encore une fois, bon, ça rendra pas le maillot des Buccaneers plus joli, mais ils auront un quarterback. Et Jameis Winston, on rappelle aussi, hein, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, on a parlé de casserole. Il est quand même accusé de viol. Il a été. C'est bien, Roger Goodell arrive pour qu'on évite les sujets qui fâchent.
C'est ça.
Il est sifflé copieusement encore. Hein. Avec le premier choix de la draft 2015, les Tampa Bay Buccaneers choisissent Jameis Winston, le quarterback de Florida State. Il a 21 ans, 1m93, 104 kilos. Choisi donc dans le top 5 comme prévu par sa fiche Touchdown Actu. 14 matchs, 65% de passes complétées, 3907 yards, 25 touchdowns et 18 interceptions quand même la saison dernière pour Jameis Winston avec FSU. On rappelle Heisman Trophy sur sa première année, ouais. Une saison plus difficile l'an dernier. Est-ce qu'ils ont à s'inquiéter, les Buccaneers, de ces 18 interceptions qu'on vient de voir ?
Alors, je dirais oui et non. Alors déjà, première chose, c'est que, comme je le disais, ce qui a clairement fait la différence par rapport à Mariota, c'est qu'il a le gabarit, il a également un très bon bras, il est vraiment capable de faire la différence, et il l'a montré sur sa première saison. Même la saison dernière, il a fait pas mal de comeback en fin de match. C'est vraiment il a l'âme d'un franchise quarterback. Après, il faut savoir s'il va passer le niveau supérieur. Encore une fois, il est sorti de la fac que sophomore, donc il y a aussi un petit peu d'expérience à acquérir. Après, c'est vrai que l'année dernière, il a peut-être eu plus tendance à forcer son jeu, et ça s'est vu sur certaines rencontres. Je pense au match notamment contre Louisville ou contre Florida, où il subit pas mal de pics qui sont assez largement évitables. Et puis, l'autre question, forcément, c'est la gestion du hors-terrain. Savoir s'il va réussir à être je dirais canalisé entre guillemets. Tu parlais de ces différentes affaires.
Il a été accusé de viol une fois, les charges ont été abandonnées. Les charges ont été abandonnées après une enquête qui a été quand même relativement bâclée visiblement. Bon, comme d'habitude, hein, on accuse la victime de mentir pour avoir de l'argent. Chacun en pensera ce qu'il en veut. Après, les stigmates de... On accuse rarement quelqu'un de viol pour rigoler, à mon avis, mais voilà.
Après, aux États-Unis, faut
oui,
faut
oui,
se
oui.
Méfier, mais,
oui. Mais après, les conséquences sont quand même plus graves pour les gens qui accusent que pour les sportifs. Je crois que Ben Roethlisberger et Kobe Bryant s'en sont bien remis. Donc voilà, il y a ce genre de choses-là. Il y a les insanités, il y a le vol des pattes de crabe que maintenant on lui avait donné, visiblement. Bon, il y a toutes ces petites choses-là. Moi, ce qui me fait un peu peur pour lui, pour être très honnête, c'est qu'il reste en Floride, il reste en terrain inconnu. C'est pas l'état où on fait le moins la fête. À mon avis, il y a quelques patrons de strip club qui vont pouvoir payer les études de leur fille tranquillement avec ce que va leur donner James Winston dans les années à venir. Bon, voilà. En tout cas, il est à la maison, on vous précise ça aussi. James Winston n'est pas sur place pour recevoir la petite poignée de main et le petit maillot habituel de Roger Goodell. Il a décidé de rester à la maison. Il est en Alabama, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein, en famille, James Winston. Ce sera la même chose pour Marcus Mariota, ouais. D'ailleurs.
Autre chose que je voulais te signaler sur James Winston, alors je parlais du côté... je parlais des pures qualités techniques et physiques, je dirais d'ailleurs. Faut pas oublier qu'il est aussi capable de parfaitement se déplacer dans la poche, et ça c'est important pour un QB de ce genre. C'est un leadership indéniable, et même l'année dernière, Florida State, qui a été vraiment très en difficulté par rapport à la saison précédente, et on a vu un Jameis Winston qui a jamais baissé les bras, même lors de son fameux fumble un petit peu gag contre Oregon. C'est toujours un joueur qui arrive à motiver ses coéquipiers. Alors des fois, il est peut-être un petit peu tête à claque. On se rappelle de certains accrochages avec Jimbo Fisher où il a souvent l'impression de détenir la vérité, je dirais. Mais voilà, ça reste quand même un leader de vestiaire, je pense. Et ça reste une bonne pioche pour Tampa Bay s'il est bien utilisé. Et encore une fois, Dirk Cutter, ça reste un bon coordinateur offensif. Même si le dernier rookie qu'on lui a mis dans les pattes à Jacksonville, c'était un certain Blaine Gabbert. Donc,
Oui, c'est pas bonne augure si on reste là-dessus.
Voilà.
Bon, c'est fait en tout cas pour le premier choix de la draft, Jameis Winston à Tampa Bay. C'est officiel. Les Titans sont officiellement sur l'horloge et ça fait déjà plus de 6 minutes. Il reste 3 minutes 42 à eux pour choisir. On va rappeler quand même, cette équipe, elle est à 2 victoires, 14 défaites la saison dernière. Ils ont besoin d'un quarterback. Eux croient en Zach Mettenberger. En tout cas, ils ont besoin de linemen offensif, ils ont besoin de cornerback, ils ont besoin de playmaker surtout. Il y a eu une rumeur Philip Rivers qui a été abandonnée. Ils sont en transition vers une défense 3-4 avec l'arrivée du coordinateur Ray Orton. Et pour l'instant, la grande attente, c'était qu'ils échangent ce deuxième choix. Pour le moment, il reste 3 minutes.
Je pense que ça parle trade à l'heure actuelle.
Ça doit discuter très très fort. En tout cas, officiellement, ils sont convaincus par Zach Mettenberger. Toi, ça te paraît jouable de... Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'un quarterback quand même? Moi, j'aime bien Zach Mettenberger, mais on a vu qu'il a 6 défaites
Ils ont besoin d'un quarterback, surtout qu'on rappelle que Mettenberger, il a quand même toujours des petits problèmes de blessures à régler. Il a quand même un petit problème de ligament.
Du Tennessee, entre lui et Jack Locker, il y a un vrai problème de blessure.
Mais encore une fois, Jack Locker, Wilson Hunt l'a tenté parce qu'il était déjà là, parce qu'il a été drafté relativement haut. Donc
ouais,
voilà, et encore il s'est gardé, c'était Whitehurst qui a été signé l'année dernière, je crois, au cas où. On a vu ce que ça a donné, ou pas d'ailleurs, mais donc voilà, ils ont besoin d'un quarterback, mais encore une fois, je les vois pas sélectionner Mariota à cet endroit-là. Moi personnellement, je mettrais plutôt une pièce sur Leonard Williams, comme tu le disais, il faut rebooster un petit peu la défense et le front seven de Ray Orton, qui a été quand même pas mal mis en difficulté l'année dernière, et en plus ça permettrait aux Titans d'avoir une petite paire d'anciens DN de USC avec Jarrell Casey, ce qui pourrait être assez intéressant et ce qui pourrait permettre aux Titans de se refaire la cerise en vue de la saison prochaine, défensivement en tout cas.
Lui a déjà annoncé en tout cas qu'il aimerait bien jouer dans le Tennessee, Leonard Williams, donc ça ce serait pas un souci en tout cas. Ce qui serait plus étonnant à mon sens, ce serait quand même, s'ils veulent Leonard Williams, qu'ils n'arrivent pas à échanger ce deuxième choix et qu'ils le sélectionnent là, parce qu'il y a quand même l'occasion de réaliser un coup au niveau du nombre de choix à récupérer, vu le nombre d'équipes qui ont l'air d'être intéressées, en tout cas dans les rumeurs, parce qu'on sait, c'est toujours la même chose, les écrans de fumée, et qui est vraiment intéressé par quoi, et le choix... Et là,
ouais,
sans échange, visiblement.
Bah, apparemment, ouais. on annonçait donc forcément Philadelphie avec la possibilité de Mariota. On parlait de Cleveland également, qui a ses deux premiers tours de draft et qui était un candidat potentiel justement pour recruter un quarterback après les mésaventures récentes de Johnny Manziel. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'offres suffisamment séduisantes pour les pousser à rejeter ce deuxième choix.
Alors, on va aller rapidement au chat pour les pronostics.
Alors, vu qu'a priori, il n'y a pas de trade sur le chat, les pronos vont vers Leonard Williams. Les gens pensent vraiment que ça va partir donc, sur le défenseur. Il y a très peu de gens qui pensent Mariota, pour le coup.
Alors, la mock draft de Touchdown Actu n'incluait pas les trades. Donc, elle est sur Marcus Mariota d'Oregon. Et ce serait une petite surprise, tiens, si Tennessee finissait par prendre Mariota au nez à la barbe de tout le monde, s'ils n'ont pas trouvé d'offre qui les intéresse. Après, ils peuvent très bien, il y a aussi, c'est arrivé dans l'histoire de la draft, que le joueur soit choisi et échangé quelques minutes plus tard. C'est arrivé, je crois, avec Eli Manning. Hein.
C'est ça, c'était arrivé avec Eli Manning, Rivers, l'échange entre les Chargers et les Giants. Et sinon, pour Jay Glazer, juste pour revenir sur les Buccaneers, il semblerait que les Eagles ont quand même offert aux Buccaneers deux choix du premier tour, plus un joueur en défense, mais que les Buccaneers aient refusé. Ouf. Il semblerait.
Donc pour les Eagles, c'était les...
Les Eagles auraient les proposé Eagles. Ça aux Buccaneers tout à l'heure.
D'accord, oui. Alors on ne sait pas par contre si c'était pour choisir Winston ou Mariota, mais visiblement les Eagles sont chauds et prêts à monter.
Enfin, Tampa qui est numéro 1 et à qui tu proposes de descendre au 20e pick, bon, je ne suis pas sûr que ça va les motiver énormément.
Ouais, mais... Ça fait bas. Ça fait bas quand même parce qu'ils ont besoin de plus. En tout cas, le choix est annoncé dans la boîte pour les Titans. On l'attend toujours. Il y a un petit délai entre le moment où ils annoncent... que le choix, l'horloge est déjà partie pour les Jaguars, il y a deux minutes qui se sont déjà écoulées, donc c'est bien, ça enchaîne en tout cas du côté de la NFL.
Je serais très surpris que ce soit pas Leonard Williams, ouais. Quand même, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment le joueur le plus préparé à la NFL. Voilà, c'est vraiment un monstre sur la ligne défensive, aussi bon sur le pass rush que sur le run stop.
Alors, on va écouter Roger Goodell qui va nous annoncer que le deuxième choix de la draft 2015 est Marcus Mariota, quarterback d'Oregon, qui est heureux comme tout. Il est entouré de fleurs comme une couronne mortuaire, le pauvre. On dirait que c'est son enterrement. Marcus Mariota, deuxième choix de la draft, et les supporters des Eagles qui sont dépités dans la fan party des Eagles. Marcus Mariota, et donc, bah, petite surprise, puisqu'on a annoncé Chip Kelly prêt à vendre père et mère pour récupérer ce joueur, et puis finalement, on se retrouve avec un Marcus Mariota qui ne va pas jouer pour... les Eagles et qui va jouer pour les Titans. C'est une petite surprise quand même, puisque tu l'annonçais, c'est pas le style de Ken Whisenhunt.
Ils m'ont fait mentir. C'est pas le type de quarterback qu'affectionne Ken Whisenhunt, mais c'est un joueur qui a également énormément de potentiel, très athlétique, qui a un bon bras, qui est également capable de lancer en mouvement, ce qui est une donnée assez, assez importante. Après, la différence avec Winston, c'est que c'est le système de jeu dans lequel il a évolué à Oregon. Winston évoluait beaucoup plus dans une pro-style offense, qui est beaucoup plus utilisée donc en NFL. Mariota jouait un peu plus en option avec... Des calls offensifs qui lui permettaient d'avoir des fenêtres assez larges, de pouvoir vraiment lui faciliter la vie au maximum. Et là, avec des playbooks un petit peu plus élaborés, on va dire, faudra voir si Mariota va réussir à être à la hauteur de ce deuxième choix de draft.
Alors, je vais t'interrompre parce que le choix des Jaguars est arrivé. On rappelle, si vous nous suivez en audio, n'hésitez pas à aller sur NFL.com. Le live est gratuit. On est calé sur ce live-là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre de ce côté-là. Le choix des Jaguars. Et donc, dans la boîte, on va rappeler que les Jaguars sont à 3 victoires, 13 défaites. Ils ont besoin d'aide, notamment sur la ligne offensive. Ils ont 7 sélections dans cette draft. Ils ont autorisé 71 sacs l'an dernier. C'était le plus gros total de l'année. Jermaine Parnell, Stephen Wyszniewski sont arrivés. Grosse free agency, signature à quasiment tous les postes. Julius Thomas, Jared Odrick. La tactique pour cette équipe, c'est quoi? Meilleur talent disponible?
Je pense que c'est meilleur talent disponible. Alors, je me suis trompé sur Tennessee. Là, je vois que Jacksonville a sélectionné relativement rapidement. Les deux choix qui reviennent le plus au niveau des rumeurs, c'est Dante Fowler et Leonard Williams. Je vais le répéter encore une fois, pour moi Leonard Williams c'est le meilleur joueur de cette draft, et le fait que Jacksonville sélectionne aussi rapidement, ça peut vouloir dire que c'est Williams, ça peut vouloir dire aussi que ça peut être Amari Cooper, qui est également souvent considéré lors des dernières mock draft de certains experts pour rejoindre les Jaguars, ce qui paraîtrait un petit peu surprenant avec tous les receveurs qu'ont récupéré Jacksonville l'année dernière. Mais bon, on n'est pas à une surprise près, la preuve avec Mariota à Tennessee.
Blake Bortles, le jeune quarterback des Jaguars, 11 touchdowns, 10 interceptions la saison dernière, il a 22 ans. Et il aurait... On n'a jamais trop de cibles hein, en NFL, surtout à l'heure actuelle. En tout cas, nos confrères américains d'NFL.com sont en boucle hein, sur Marcus Mariota, forcément. Marcus Mariota qui va arriver dans le Tennessee, c'est la première surprise de la soirée. Ouais. Et les Jaguars, oui.
Excuse-moi, juste pour compléter avec Mariota, avant qu'on enchaîne vraiment sur les Jaguars, petit problème également que j'ai pas évoqué. Il est apte à courir, il ne fait pas que passer. Par contre, il y a énormément de soucis de fumble. Ses décisions sont relativement intelligentes, il se fait très peu intercepter, mais il y a une sécurité du ballon à vraiment assurer un petit peu plus au cours de son début de carrière NFL.
Et donc, les pronostics sur le chat pour ce troisième choix.
Alors, ça alterne beaucoup entre donc, Fowler ou Leonard Williams, forcément, donc, entre celui qui est supposé être le meilleur joueur de ces drafts et Fowler qui revient quand même très souvent du côté de Jacksonville. Donc vraiment, sur le chat, c'est partagé entre les deux.
Le choix de la mock draft de Touchdown Actu, c'est Dante Fowler Jr. sur la mock draft de Thomas Silva. Donc on le rappelle, hein, les Jaguars, 3 victoires, 13 défaites. Vraiment une équipe qui a suffisamment signé lors de la free agency et qui a suffisamment de trous en même temps pour vraiment pouvoir prendre ce qu'il y a de mieux. Et puis voilà, il faut du talent à cette équipe, hein, notamment. Ce sera très important. On attend en tout cas toujours hein, que le choix tombe. Ils aiment bien pour le moment annoncer que le choix est enregistré, mais que finalement on attend 5 minutes de plus.
Attends, je te rappelle qu'il faut floquer les maillots, faut tout préparer.
Là, normalement, on arrive au moment où les mecs sont là.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que les deux premiers n'étaient pas là. Donc ça peut déjà sous-entendre que c'est un joueur qui est dans l'auditorium de Chicago.
C'est vrai qu'on a parlé de Marcus Mariota et de ses colliers de fleurs, mais lui aussi hein, était chez lui. Lui, il était carrément à Hawaï. Donc c'était encore plus loin de Chicago que Jameis Winston. On attend toujours hein, le choix de nos amis de Jacksonville. Ça devrait pas tarder. On voit la War Room avec le propriétaire, Shatkan, et sa jolie moustache. Il est là, il est content. Tout le monde est concentré. Pas d'emballement général pour le moment. Pas de playoff depuis 2007. Hein, on le voit à l'écran pour les Jaguars. C'est à peu près dans les tons là, des trois premiers choix. Je crois que c'était 2007 pour les Buccaneers, les playoffs. Et 2008 pour Tennessee. Et la plus mauvaise attaque de la Ligue l'an dernier. Donc vraiment, c'est une équipe qui peut bénéficier de talent à peu près tous les postes.
Il y a pas mal de besoins également à hein, Jacksonville. Tu parlais notamment de la signature de Jeremy Parnell sur la ligne offensive. Je ne suis pas sûr que ce soit une signature qui offre énormément de garanties à Jacksonville à ce poste-là. Il me semble que c'est l'équipe qui a concédé le plus de sacs l'année dernière en NFL. Ouais. Donc voilà, ils sélectionneront pas, en tout cas ça m'étonnerait, de lineman offensif en troisième choix. Mais je pense que ça va être un besoin. Peut-être également le poste de running back pour mettre un petit peu moins de pression sur les épaules de Blake Bortles.
Ce serait pas mal parce que Brian Leonard, c'était pas forcément la meilleure expérience. Roger Goodell arrive avec le troisième choix de la draft 2015. Les Jacksonville Jaguars choisissent Dante Fowler Jr., defensive end qui sort de Florida, un junior d'1m91 pour 118 kg, 12 matchs, 60 plaquages, donc 15 pour perte de yard, 8,5 sacks, 2 fumbles forcés et une passe déviée, un des pass rushers les plus attendus de cette draft.
Ouais, et les plus complets pour le coup. Alors le problème avec Dante Fowler, c'est pas forcément ses aptitudes, parce que comme je disais, il est polyvalent, il est vraiment capable de rusher le quarterback, joueur très athlétique, excellent en poursuite, que pas mauvais en couverture. Faut également savoir que c'est un très très bon edge setter, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable de bloquer le jeu au sol sur l'extérieur de la ligne, en tout cas de son côté de la ligne. Et voilà, après le problème, encore une fois, c'est son petit souci de régularité. Il n'est pas complètement, j'irais exemple de tout reproche parfois sur le run-stop. C'est un petit domaine à perfectionner à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pas un scandale de le voir partir au troisième choix et lui aussi de rester dans l'état de Floride à l'instar de Jameis Winston. Voilà, Jacksonville a une bonne pièce pour renforcer son pass rush et pour avoir un pass rusher numéro 1 pour les années à venir.
Et Jacksonville qui hérite aussi du joueur le plus mal sapé de cette draft. Car oui, le point mode est de retour cette année aussi. Et Dante Fowler a ce magnifique costume blanc, liseré rouge, nœud papillon, chaîne et surtout Santiago doré avec des pics la totale. Il est prêt pour le nouveau Mad Max là, qui sort avec Charlize Theron. Enfin bon, c'est assez atroce. Le liseré rouge, j'arrive pas à savoir ce que ça me rappelle. Il y a un côté, c'est un mélange entre Darty et je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas dans cette tenue. Bon, les réactions sur le chat pendant tes followers.
Donc forcément, pas beaucoup de surprises, vu que beaucoup des gens sur le chat savaient que son nom était très lié aux Jaguars. Pas beaucoup de réactions sur le niveau du joueur. Il y a un espèce de consensus. En fait, le choix est vraiment pas surprenant jusque-là. Donc, il y a une espèce de consensus, on va dire, autour de ce choix. Et en tout cas, les fans des Riders, du coup, salivent d'avance parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont prendre Leonard Williams au prochain tour, ce qui amènerait vraiment du poids sur leur ligne défensive. Donc, côté Riders, ils sont très, très contents.
C'est vrai que les Raiders donc, arrivent juste derrière. Ils ont fait déjà une super affaire défensive l'an dernier avec Khalil Mack. Ils sont peut-être sur le point de récupérer Leonard Williams, un joueur qu'ils étaient plutôt liés d'ailleurs avec lui dans les rumeurs depuis le début de ce processus. Les Raiders, on va présenter en bref, 3 victoires, 13 défaites, des besoins un peu partout, des receveurs, il en faudrait au moins, cornerback, running back, ligne offensive, une de ces équipes qui a besoin de talent un peu partout. Ils ont Derek Carr hein, depuis l'an dernier, 21 touchdowns, 12 interceptions pour le jeune quarterback. Maintenant, il faut l'entourer. Rodney Hudson est arrivé au centre de la ligne pendant la free agency, Malcolm Smith le linebacker, Michael Crabtree au poste de receveur, mais il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de trous dans cette équipe. 28 sacs concédés seulement, quand même, c'est la stat positive pour eux. Il y en a, mais donc des trous un peu partout. Et c'est vrai que Leonard Williams, là, pour le coup, ça pourrait être une super affaire.
Ça peut être une super affaire, surtout qu'ils n'ont pas énormément considéré le poste de, je dirais, de D-line extérieur, donc de vraiment pass rusher pur, puisqu'ils ont signé, comment il s'appelle, Dan Williams, oui, d'Arizona, mais c'est vrai qu'ils ont laissé partir Lamar Woodley, Justin Tuck n'est pas tout jeune, donc il y a un besoin à ce poste-là. Après, il y a également d'excellents receveurs dans ce top 5, des joueurs comme Amari Cooper, comme Kevin White. Exactement.
C'est vraiment un vrai dilemme entre un super talent défensif, un super talent offensif. Est-ce que tu donnes un Amari Cooper à ton Derek Carr, justement, ou est-ce que tu complètes la bonne pioche Khalil Mack de l'an dernier avec un Leonard Williams devant? C'est un problème de riche. Hein.
Ouais, alors ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait que Reggie McKenzie, au sein de l'organisation de Green Bay, a rarement sélectionné des receveurs très très haut.
C'est vrai.
Et ils ont récemment signé Michael Crabtree. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même Crabtree et James Jones en receveur. C'est pas extraordinaire, mais c'est des bons receveurs numéro 2, on va dire. Maintenant, je continue de penser qu'il leur faut un receveur d'impact.
Clairement.
Mais je vais le dire et je le répète, est-ce qu'on peut passer à côté du meilleur joueur de cette draft? C'est compliqué.
C'est un dilemme assez compliqué, Raphaël. Qui choisit quoi?
Ah bon, en tout cas, sur le forum, il n'y a vraiment pas d'hésitation. C'est Leonard Williams de tous les côtés. Donc, on a notre ami Romain de Corse qui incite à prendre Leonard Williams.
Romain Terrasse, notre graphiste qu'on salue.
L'idée générale du côté du chat, c'est que des receveurs, tu peux en prendre des très bons au deuxième tour, alors qu'un Leonard Williams, t'en auras pas au deuxième tour.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons receveurs dans cette draft.
Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que ça je l'ai pas signalé, mais il y a quand même une classe de receveurs qui est vraiment très 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 très, très profonde. Et surtout des receveurs qui sont annoncés justement au deuxième tour, et avec Oakland qui va sélectionner au début du deuxième tour en plus. C'est vrai qu'il y a plus de moyens de s'appuyer sur un gros pass rusher en tout début de draft, et après remplir à côté.
Leonard Williams annoncé justement en 4e position par la mock draft de Jean Actu de Thomas Silva, et pour l'instant c'est du 3 sur 3 hein, pour Thomas. Alors je sais que les deux premiers n'étaient pas les plus fous, mais c'est 3 sur 3 avec les bonnes équipes, donc c'est plutôt carré. Il n'est pas loin du 4 sur 4, après à mon avis ça va un peu plus se compliquer, mais en tout cas, et pas d'échange, alors c'est un peu la première surprise de cette draft finalement. On a un trio de tête, on va le rappeler, hein, Jameis Winston, Marcus Mariota, Dante Fowler Jr. maintenant, ça c'est acquis, et aucun échange dans cette draft. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu bouger.
Oakland, puisqu'apparemment le choix a déjà été effectué, donc ouais. Je pense. Après, on parlait de rumeurs où les Raiders pouvaient descendre, mais je pense que par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, le fait de s'adapter à ce qui se passait,
oui,
le fait également de savoir si Leonard Williams était peut-être disponible à cette position-là.
Bah pour eux, c'est un peu le scénario idéal. Et Roger Goodell arrive. Avec le 4e choix de la draft 2015, les Raiders d'Oakland choisissent Amari Cooper d'Alabama. Amari Cooper, le receveur d'Alabama, qui était très très attendu dans cette draft. Un joueur de 20 ans, 1m85, 95 kg, 12 matchs, 124 réceptions, 1727 yards et 16 touchdowns. C'est vrai que les statistiques sont quand même assez énormes pour lui à Alabama l'an dernier.
Ouais, alors je disais que Leonard Williams c'était le meilleur joueur de la draft. Pour moi, Cooper est juste derrière. C'est vraiment un joueur que j'adore, qui est vraiment qui a une capacité de séparation assez impressionnante. En termes de yards after catch également, il est vraiment très très rapide, notamment en bord de touche. Et puis voilà, il a eu quelques petits problèmes de taille éventuellement, mais c'est un joueur sur lequel on peut vraiment s'appuyer, notamment sur les troisièmes tentatives. Il a des mains très très sûres et voilà, il a prouvé peut-être un petit peu plus de choses qu'un joueur comme Kevin White qui a vraiment fait qu'une seule saison. Et à mon sens, c'est peut-être ce qui relativise la chose à Amari Cooper. De sa saison freshman à sa saison junior, il a été au taquet pour Alabama. Il s'est encore plus gavé l'année dernière avec l'arrivée de Lane Kiffin en coordinateur offensif.
J'ai l'impression qu'il y a quand même un phénomène qu'on observe un peu régulièrement dans les processus pré-draft. C'est qu'il y a une hype qui monte sur certains joueurs. Là, on commençait à avoir des mocks avec Kevin White qui était au-dessus d'Amari Cooper, etc. Et au final, on en revient toujours au jour de la draft à des joueurs qui ont performé, qui ont été solides, sauf certains GM un peu kamikazes, mais on en revient toujours à ces mecs-là un peu solides comme Amari Cooper qui reste devant au final.
Ce qui m'étonne, c'est que pour le coup, alors on sait que Al Davis n'est plus là, mais le fait que Kevin White tape un chrono vraiment canon sur le combine, on aurait pu se dire qu'Oakland serait plutôt parti vers White que vers Cooper.
C'est vrai.
Donc c'est un choix, j'irais, raisonnable. C'est une bonne chose pour Oakland, ça ne présage rien pour Kevin White. Hein. Je ne dis pas que ce sera un mauvais joueur, mais voilà, en tout cas, il sait ce qu'ils auront avec Amari Cooper. Voilà. Après, je pense qu'il va peut-être leur manquer un receveur vraiment de taille, parce qu'entre Jones, Crabtree et Cooper, c'est des receveurs qui restent quand même relativement petits, par rapport à d'autres en tout cas.
Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la suite, hein, notamment au deuxième.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Troisième tour. On est obligé de demander l'avis de Romain Terrasse sur le chat. Comment juge-t-il ce choix, puisqu'il est notre fan numéro 1 des Raiders?
Alors attends, je te rattrape sa réaction où il disait qu'il aurait préféré rester couché que voir ça. Donc je pense qu'il est très très déçu, notre ami Romain.
Oh, Romain.
Mais de manière générale, les fans des Raiders, c'est pas qu'ils n'apprécient pas Amari Cooper ou qu'ils le trouvent mauvais, c'est juste que pour eux, il fallait prendre le meilleur joueur disponible, donc Leonard Williams, et garder et prendre un receveur au deuxième tour. C'est... Et donc,
bon,
ils sont un peu déçus de ça.
Pour eux, quoi. Moi, je les trouve un peu durs. C'est quand même un joueur qui est quand même de très très gros calibre.
C'est quand même très surprenant que Leonard Williams ait été aussi boudé après 4 premiers choix.
Et alors, est-ce que ce sont les Redskins qui pourraient faire une bonne affaire, puisque nous en arrivons aux Redskins, 5e choix de cette draft, 4 victoires, 12 défaites, ils ont besoin de cornerback, ils ont besoin d'un right tackle, ils ont besoin de linebacker, ils ont 7 sélections dans cette draft, ils ont fait une free agency plutôt intelligente, ce qui est assez rare chez eux, Terrence Knighton, Chris Culliver, Stephen Pierre, Ricky Jean-François, des joueurs pour consolider un peu tout ça, ils sont 24e contre la passe, ils ont besoin de talent en défense. Tiens, Leonard Williams, c'est là.
Alors, je te dirais oui, si les Redskins qui viennent de sélectionner d'ailleurs n'avait pas fait un recrutement aussi massif en termes de D-line. Tu parlais notamment de Jean-François Knighton, et de Knighton.
Ouais. Et Stephen P.
Ils ont recruté également Jason Hatcher l'année dernière. Donc ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal renforcé cette D-line. Et j'attends de savoir dans quel système va jouer Washington, parce que Joe Barry, qui est arrivé en coordinateur défensif, joue plutôt de la 43, ce qui n'était pas le cas ces dernières années de Washington. Et à ce moment-là, un joueur comme Leonard Williams peut avoir du sens s'il est décalé plutôt en defensive end. Maintenant, les Redskins ont des besoins en receveur également. Pierre Garçon n'a pas forcément été à la hauteur de toutes les attentes.
Alors, et tu fais bien de soulever ça. La mock draft de Touchdown Actu, c'est Kevin White, le choix pour les Redskins.
Ça aurait du sens, à mon sens. Enfin, à mon avis, ça aurait du sens. Ouais.
Raphaël, les pronostics un peu sur le chat.
Donc, Williams, forcément, vu que c'est le meilleur joueur qui descend, donc continue à rester. On a Vic Beasley qui ressort. Je regarde ce qu'on a d'autre.
Derrière, on a les Jets. Si Williams, si tombe aux Jets, ils vont avoir une ligne de mammouth en défense. Avec lui, Wilkerson, ça peut faire très très mal.
Voilà,
en tout cas,
c'est les noms.
Le choix des Redskins, en tout cas, a été donné à la NFL. On attend l'arrivée de Roger Goodell. Et là, Roger Goodell pour annoncer le prochain choix. Le cinquième choix de la draft 2015 des Redskins est Brandon Scherf, offensive line, Iowa. C'est une petite surprise, c'est très très haut, c'est un très bon joueur, on va en parler, mais 1m96, 147 kg, 13 matchs l'an dernier avec Iowa, un très très bon joueur, on est d'accord là-dessus. Il arrive d'ailleurs, il va... Alors, c'est pas lui ça. C'est pas lui. Bon, en tout cas, Brandon Scherf, sélectionné en 5e position par Redskins, c'est un très bon joueur, mais on parle d'un joueur qui pourrait finalement être converti garde en NFL, c'est très haut.
C'est un petit peu le même type de joueur que Zach Martin l'année dernière. Voilà, justement, il est comparé à Zach Martin sur NFL Network. Voilà, c'est un joueur qui a peut-être les capacités à l'avenir pour jouer de tackle gauche, mais qui a quand même éprouvé pas mal de difficultés en termes de pass pro pour vraiment être efficace tout de suite dans ce rôle-là. Donc vraiment, il devrait assurer un poste de garde, mais s'il démarque en tant que garde en NFL, il devrait être monstrueux. C'est un décrocheur phénoménal, donc vraiment capable de libérer pas mal d'espace au niveau de la ligne. Donc pour des blocs en zone, ça va être très, très redoutable pour les Redskins. Et puis voilà, c'est un monstre physique, technique, très bon usage des mains. Donc voilà, Washington a un très beau prospect entre les mains. Maintenant, est-ce que c'est pas cher payé pour un lineman qui en plus va s'orienter vers le poste de garde?
Assez surpris. Je précise juste, tu as mentionné le terme de pass pro, donc protection de passe. Hein, pour ceux qui suivent leur première draft, on l'entendra souvent pour les linemen. En tout cas, choix surprenant, le top 5 désormais, Winston, Mariota, Fowler, Cooper et Brandon Scherf en provenance d'Iowa. Ce qui nous laisse donc toujours Leonard Williams disponible. Il va descendre et le prochain choix, il est pour les Jets de New York qui aiment bien les défenseurs. Donc c'est pas inintéressant.
Moi, ce qui me rassure, c'est que le choix d'Atlanta arrive.
Le choix d'Atlanta arrive, c'est vrai. Ils sont
et Leonard Williams, c'est toujours disponible.
C'est vrai qu'en défense. Alors il y a les Bears juste avant qui pourraient aussi avoir besoin de défenseurs.
Vrai. Mais ils ont besoin d'un receveur également. Et Kevin White est toujours disponible.
C'est vrai. Bon, après, ils ont déjà Alshon Jeffrey. Hein, donc ils peuvent se dire Leonard Williams. Bon, en tout cas, les Jets sont les prochains sur l'horloge. Ils vont sélectionner en 6e position. 4 victoires, 12 défaites. Quoi, ils ont besoin d'un quarterback, évidemment, avec Geno Smith. Linebacker, besoin d'un peu de pour renforcer le front 7. Ils ont 6 sélections dans cette draft. Marcus Mariota, Jameis Winston, c'est parti. Donc les quarterbacks, normalement, ça devrait pas être pour maintenant. Énorme free agency, Darrell Revis, Antonio Cromartie, Steven Ridley, Brandon Marshall. Ils ont renforcé aussi très largement. Ils ont autorisé 47 sacks l'an dernier. Mais voilà, ils peuvent, à mon avis, dis-moi ce que t'en penses, mais est-ce qu'ils peuvent pas prendre tout simplement le meilleur talent disponible?
Bah, pour la blague, je te dirais que ce qui leur manque, c'est un safety avec tous les defensive backs qu'ils ont signés pendant l'intersaison. Maintenant, je pense que ils ont besoin d'un pass rusher. Ils ont besoin d'un pass rusher. Calvin Pace, c'est pas forcément une grosse menace. Quintel Coppola, c'est un peu irrégulier. Donc, alors, Leonard Williams jouera pas forcément outside, mais un joueur comme Beasley est disponible.
C'est vrai qu'il y a un très très bon pass rusher aussi, hein. On n'a pas encore parlé de lui, et au final il y avait un débat d'ailleurs entre lui et Dante Fowler pour le meilleur pass rusher de cette draft un peu, non?
Ouais, tout
parce
à fait.
Que c'est vraiment une question de préférence et de style,
ouais,
là, pour le coup.
Je pense que c'est vraiment les deux, ce qu'on appelle les deux LIO, donc c'est les joueurs qui peuvent évoluer et en defensive end 43 et en outside system 34.
C'est vraiment la grande mode, hein, d'ailleurs, ouais. Ces joueurs depuis quelques années, hein, ces pass rushers un peu hybrides.
Exactement, et c'est vraiment les deux les plus aptes dans ce domaine-là, avec Fowler qui est déjà parti, pourquoi pas Beasley. On rappelle que ces dernières semaines, il y a également Bud Dupree, le pass rusher de Kentucky, qui voit sa cote monter au fur et à mesure. Pourquoi pas monter jusqu'au sixième choix? Mais bon, après, autre petite chose, on a un lineman qui vient d'être drafté. Il y avait des rumeurs qui annonçaient éventuellement l'arrivée d'un tackle chez les Jets pour préparer le tackle du futur. Le gros nom, c'est Andros Pete. Est-ce qu'ils seraient capables d'aller chercher un reach pour le sixième choix? Ça me paraît un petit peu étonnant. Je resterai quand même sur Beasley.
Bon, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles pour les Jets. Cette draft est vraiment lancée. Il se passe beaucoup de choses. Juste un petit point NBA, parce que je viens de voir passer sur le flux Twitter de Raphaël un truc assez hallucinant. Je crois que les Bucks de Milwaukee sont en train de se faire démonter par les Bulls.
A priori, il y a 81 à 38 pour les Bulls. Donc c'est un peu compliqué.
C'est à Milwaukee, hein.
Ils les ont attaqués à la batte de baseball, il y a un truc où... Non mais c'est incroyable ce score. Bref, donc Chicago devrait être au deuxième tour pour jouer Cleveland pour ceux qui suivent la NBA. 1 minute 12 sur le chrono pour les Jets de New York. On n'a toujours pas de choix, donc c'est peut-être que ça négocie en tout cas. Quelques pronos, tiens, du côté de New York. Je sais qu'on a beaucoup de fans de New York sur le chat.
Sur le chat, ça part pas mal sur Beasley. Effectivement, le côté pass rush de Vic Beasley intéresse plutôt les fans des Jets. Pas de show offensif côté Jets. Voilà, Beasley essentiellement, parce que Leonard Williams correspond pas forcément non plus aux besoins sur cette ligne défensive, alors que Beasley, c'est plus ce que rechercheraient les Jets en termes de pass rush.
Et puis, il faut signaler que ça fait quand même un petit moment que les Jets sont pas sélectionnés du joueur offensif au premier tour. Hein. Alors on sait que Rex Ryan est amoureux des joueurs défensifs, je sais pas si Todd Bowles c'est la même doctrine, mais...
C'est vrai, mais bon, après Todd Bowles est un coach défensif aussi, mais... Tous les coachs c'est vraiment là, il y a autant de philosophies de coachs, j'ai quasiment envie de dire, mais voilà, il y a les coachs défensifs qui se disent sûrement qu'ils peuvent prendre des joueurs défensifs plus loin et les faire adapter à leur système et les faire mûrir, et puis il y a sûrement ceux qui... Alors en tout cas, justement, Todd Bowles, on l'a à l'écran, ils ont l'air d'avoir enfin arrêté leur choix. On a vu que la draft partie des Jets se déroulait dans leur stade, visiblement, dans le New Jersey. Je ne sais pas s'ils ont fait un côté avec la draft partie des Jets et un côté avec la draft partie des Giants, de chaque côté en tout cas.
C'est pas ce qu'ils avaient fait l'année dernière ?
Ah, je sais pas.
Il me semblait qu'ils avaient organisé ça l'année dernière au MetLife Stadium.
Bon, en tout cas, Todd Bowles est là, il est prêt. Sur la mock draft Touchdown Actu, on avait Brandon Scherf pour les Jets, mais forcément, il vient juste de partir très très tôt. Du côté de Washington, en tout cas, Todd Bowles, lui, il a l'air d'être un peu dans l'attente. Hein. Il est comme nous, le choix, il est fait. Il est prêt. Ça commence à devenir intéressant parce qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'options ouvertes hein, maintenant, avec ce Leonard Williams qui se balade là. Qui va le saisir? Bon, après, il ne descendra pas plus loin qu'Atlanta, on est d'accord.
J'espère.
Voilà, là, je pense pas qu'il descende plus loin qu'Atlanta ou Chicago. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, les Jets, ouais, ils auraient sûrement aimé. Hein. On l'a vu, ils étaient à fond sur Mariota et Winston en espérant qu'il y en ait un qui descende jusqu'à eux. Il n'y a pas eu de miracle.
Ils peuvent faire un reach, donc ils peuvent éventuellement sélectionner un joueur beaucoup plus haut que le poste auquel il était prévu. En prenant un autre quarterback, on a vu que ça arrivait ces dernières années. Jake Locker n'était pas forcément attendu au 8e choix. Manuel, même chose pour Christian Ponder, Indy Manuel, des joueurs de ce style-là. Donc, bon,
c'est vrai qu'il y avait une sacrée ruée l'année Ponder-Locker. Là, c'était assez incroyable.
Et on rappelle qu'il y a la folle rumeur depuis quelques heures qu'annonce Bryce Petty dans le premier tour.
Ouais. Les Saints, notamment, le verraient très très bien. Vous avez pu le lire notamment sur Touchdown Actu.
Mais 6e choix, encore une fois, c'est haut.
Ça paraît très très haut. En tout cas, les Jets ont donné leur choix aux pontes de la NFL qui vont venir l'annoncer très très prochainement sur le podium de la draft 2015. Ça se passe très bien tout ça pour le moment, Raphaël. Sur le chat, beaucoup de monde encore. On vous remercie d'être là.
Encore beaucoup de monde. Ça se passe très bien. Les gens sont dans l'attente du choix des Jets.
Et on voit l'ami du peuple, Roger Goodell, toujours accueilli avec des sixièmes. Avec le sixième choix de la draft 2015, les New York Jets choisissent Leonard Williams. Cette fois, c'est bon. le defensive end annoncé comme tel, en tout cas par les par Roger Goodell. Leonard Williams sera donc un Jet la saison prochaine. 1m96, 137 kg, 13 matchs, 80 plaquages, dont 9,5 pour perte de yards, 7 sacks, 3 fumbles forcés, une interception, 3 passes déviées. Et là, j'ai envie de dire, cette ligne avec lui et Muhammad Wilkerson, ça fait quand même très très mal.
Et Sheldon Richardson.
Et Sheldon Richardson, je sais pas pourquoi je l'oubliais, je savais que j'en oubliais un. Là, il y a un vrai duo de defensive tackle.
C'est ça,
hein.
ça va ressembler à la ligne des Rams un petit peu. Par contre, il y avait quelques petites rumeurs de trade qui traînaient avec Muhammad Wilkerson.
Oui.
Ça peut relancer également ces rumeurs de trade pour permettre aux Jets de récupérer un autre choix de draft, peut-être un petit peu plus haut. Mais là, voilà, il y avait vraiment, c'était vraiment une aubaine pour les Jets qui récupèrent un joueur polyvalent, un monstre physique, vraiment dominateur sur la ligne. On l'a vu notamment, je pense au match à Stanford, où même blessé, il avait vraiment mis à l'amende la O-line du Cardinal, qui est quand même une des plus réputées au pays, avec notamment Andrew Spitz. Donc voilà, meilleur joueur de la draft. Ça me surprend un peu qu'il soit sélectionné aussi loin, seulement, je dirais, au 6e choix. Mais c'est une bonne opération pour les Jets. Et c'est encore un joueur défensif sélectionné au premier tour par les New Yorkais.
Et tu l'as dit toi-même, hein, le meilleur joueur, en tout cas selon toi, de cette draft 2015. Lui-même le pense, il l'a dit, je pense que je devrais être sélectionné en premier. Ça n'a pas été le cas, mais il portera un beau maillot vert des Jets. Les supporters des Jets, est-ce qu'ils sont contents de ce choix ?
Alors, bizarrement, j'en vois pas trop sur le chat, mais disons que les réactions sont partagées entre ceux qui pensent que c'est un peu qu'ils en avaient pas forcément besoin de Williams chez les Jets, et tous les autres, les fans, on va dire, de la stratégie BPA, donc choisir le meilleur joueur disponible, qui disent que bah, du coup, ça correspond à ça, et c'est une très bonne idée pour les Jets de prendre tout simplement le meilleur joueur disponible.
Moi, je suis d'accord. Honnêtement, je suis totalement d'accord avec ce choix, parce que t'en as jamais assez des linemen. On l'a vu à Saint-Louis, ils construisent un truc monstrueux, les blessures ça arrive vite, Wilkerson on sait pas dans quel état il est par rapport à la négociation de son contrat et son envie de jouer, etc. Ça fait jamais de mal d'avoir un mec comme ça, et de toute façon leur vrai plus gros besoin aujourd'hui c'est un quarterback. Qui en a pas, autant prendre le meilleur mec disponible.
Ouais. Et alors les Bears n'ont pas perdu de temps parce qu'ils ont déjà sélectionné leur joueur.
Visiblement ils en avaient un en vue.
C'est ça. Alors on revient aux autres possibilités, tu parlais du pass rusher tout à l'heure, Vic Beasley est disponible et c'est sûrement un des meilleurs joueurs disponibles sur mon board personnel. Brandon Marshall est parti, il est remplacé par Eddie Royal, donc il y a peut-être un petit déficit à ce poste là. Kevin White est disponible, Devante Parker est disponible également. Alors, le receveur de Louisville.
Les Bears 5 victoires, 11 défaites la saison dernière, beaucoup de besoins en défense, une défense affreuse la saison dernière, 377 yards autorisés par match l'an dernier, c'était la 30e défense de la ligue à ce niveau-là. Ils ont besoin de receveurs et d'un centre éventuellement, 6 sélections dans cette draft. Vic Fangio est le nouveau coordinateur défensif, il a fait des miracles à San Francisco ces dernières années. Entre le rôle, Ray McDonald, Mason Foster, Pernell McPhee, Sam Acho ont été signés, mais il faut du talent, il faut des playmakers, et en effet, ça pourrait être le moment pour eux. Il y a beaucoup de joueurs de talent en défense. Hein.
Et j'oublie également une autre possibilité, ça va te faire plaisir. Possibilité, Danny Shelton.
Et ouais, c'est vrai, mon chouchou Danny Shelton, le Vince Wilfork 2.0 de cette draft. Allez, on va se dire, on est sympa avec lui, on lui souhaite d'avoir la moitié de la carrière de Vince Wilfork, à mon avis, il serait déjà content. Parce qu'il a combien de bacs d'ailleurs, Vince Wilfork ?
3 ?
Ouais, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est
rookie ?
Ouais.
Je crois qu'il a peut-être été sélectionné lors de la saison contre Philadelphie.
Hein. Bon, en tout cas, la moitié de sa carrière, ça fait déjà une bague, c'est déjà pas mal.
Ouais. Après, ce qui est peut-être un petit peu, ce qui peut paraître peut-être rédhibitoire pour Shelton pour être sélectionné à Chicago, c'est que généralement Vic Fangio préfère des nose tackles un petit peu plus mobiles.
Ouais.
Il est mobile, mais peut-être pas aussi mobile que peut espérer Vic Fangio. On rappelle que Vic Fangio à San Francisco l'année dernière, il avait quand même un joueur comme Glenn Dorsey au milieu de la ligne, qui n'est pas forcément un os de formation, ouais. Mais voilà, qui dépannait à ce poste-là. Donc c'est pas une garantie non plus que les Bears aient besoin d'un nose tackle.
Ça va être intéressant en tout cas du côté de Chicago, parce qu'il y a un nouveau staff, hein. On le rappelle, on a parlé de Vic Fangio, mais il y a aussi John Fox et Adam Gase, le coordinateur offensif. Jay Cutler a dit qu'il était très heureux de travailler avec eux, et donc pour l'instant il n'a pas été échangé, donc il travaille toujours avec eux. Ils étaient dans les rumeurs, hein, pour aller chercher Marcus Mariota pendant un moment. Finalement ce ne sera pas eux, donc ça paraît parti pour continuer avec eux. Le choix a été envoyé à la NFL. On attend désormais que Roger Goodell vienne l'annoncer. Ils n'avaient pas de choix en 2010. Voilà ce qu'on est en train de nous donner. Samacho, Alan Ball ont été signés, on l'a dit, hein, pas mal, très actifs du côté de la Free Agency, les Bears.
En fait, ce qui est remarquable dans la Free Agency des Bears, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, c'est qu'il y a eu beaucoup de défenseurs signés, mais pas forcément de gros noms. Oui, peut-être en trail roll éventuellement, mais même en trail roll est un peu sur la fin.
Ils ont complété par petites touches un peu. Et Roger Goodell est là avec le 7e choix de la draft. Les Chicago Bears choisissent Kevin White, le receveur. Ce sera donc de l'attaque pour les Chicago Bears. Où les fans ont l'air stoïques, en tout cas, dans la draft party.
C'est la folie.
Ouais. D'accord, c'est un retardement. 1m91, 98 kg, 13 matchs, 109 réceptions, 1447 yards et 10 touchdowns. Le deuxième homme de cette draft au poste de receveur.
Et choix logique. Un petit peu plus grand encore que Calton Jeffrey pour vraiment donner des maux de tête au DB de la NFC Nord notamment. Voilà, et puis ça permet aux Bears d'offrir une option supplémentaire à Jay Cutler pour vraiment lui offrir un énième et peut-être ultime sursis pour rester à Chicago. Donc voilà, c'est relativement logique. Il y a d'autres postes peut-être à surveiller. On pense également à la O-line qu'il va peut-être falloir également renforcer au cours des prochains jours. Mais receveur, voilà, c'est un besoin et c'est plus ou moins le meilleur joueur disponible avec Vic Beasley.
C'est vrai que Cutler, parmi les quarterbacks moyens, c'est quand même le moins malheureux au niveau des cibles, hein, parce qu'il a quand même pas à se plaindre ces dernières années. Entre,
avec en plus Matt Forte qui peut dépanner en screen.
Super bien entouré, Jay Cutler, et ça va continuer. Du coup, il avait perdu Brandon Marshall, et ben il en récupère un autre. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que ça laisse quand même pas mal de trous en défense. Moi, je suis assez dubitatif de ce côté-là. Je pensais qu'il y aurait besoin d'une infusion de talent de ce côté-là, mais ils ont l'air d'avoir visiblement très confiance en Cutler et ils pensent qu'il peut tellement élever le niveau de jeu des autres qu'il faut lui prendre que des cadors.
Il y a peut-être confiance également en Vic Fangio, qui a quand même montré de très bonnes choses à San Francisco.
C'est vrai qu'après, il y a peut-être une confiance dans le système. En tout cas, ils pourront être que mieux dans un premier temps, ça c'est sûr. Raphaël, sur le chat.
Alors, les fans des Bears sont très contents du choix de Kevin White. On a notamment Sad Chicago qui est heureux donc, du choix de White. Pour la plupart des autres, pas forcément les fans de Chicago, mais le choix est logique. Prendre un receveur pour remplacer Brandon Marshall Party, ça n'étonne pas grand monde en tout cas. Voilà. En tout cas, content du côté des fans de Chicago, c'est ce qu'on peut retenir.
Un receveur, les frères Bennett sont à l'antenne sur NFL.com. Ils sont jumeaux ou pas les frères Bennett? Non? Ils se ressemblent quand même. Hein. Si tu mets des cheveux à Martellus, il y a un petit truc quand même.
Je crois que Michael est un peu plus grand.
Ah oui, non, en effet, ils n'ont pas tout à fait la même tête, autant pour moi. Bon, en tout cas, on va passer à la sélection, à une sélection qui tient à cœur. Bon, on l'a compris, on ne l'a pas dit officiellement depuis tout à l'heure, mais donc Greg est supporter des Falcons. Et donc là, c'est un peu le grand moment, le moment le plus important de la soirée. On est avec toi. Il faut l'avouer, on va faire venir au micro quand même chacun. On fera venir Raphaël, on laissera Raphaël présenter le choix des Giants. Raoul, ce sera les Chargers. Et Nelson porte son maillot des Colts, donc je crois savoir pour qui il viendra. Donc, les Falcons, je te laisse nous expliquer de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils peuvent sélectionner.
Vic Beasley ou Vic Beasley.
Voilà. Bon, on passe au suivant, le choix est envoyé. Bon, ils ont besoin, c'est vrai, en défense, il y a quand même, ils peuvent prendre le meilleur joueur défensif disponible, quoi.
Oui, ils peuvent le prendre. Alors, pour le coup, c'est Beasley. Ils ont pas mal de besoins, mine de rien. La O-line doit être un petit peu renforcée. Il y a Justin Blaylock qui a été cuté et qui n'a pas forcément été remplacé pendant la free agency. Ils ont besoin d'un running back, puisque le départ de Steven Jackson n'a pas forcément été compensé. Et puis, en défense, on aurait pas mal de petits besoins. Au poste de linebacker, malgré certaines arrivées, c'est pas extraordinaire. Le poste de D-end, actuellement, on a Croy Bierman et Adrian Claiborne, donc faut vendre un peu de rêve.
En défense, c'était 398 yards autorisés par match, c'était la pire stat de la NFL.
Voilà. Il faut clairement renforcer ça en termes de pass rush. Depuis le départ de John Abraham, c'est un peu catastrophique. Donc, il faut un pass rusher et voilà. Il y a la rumeur également Bud Dupree qui prend un petit peu d'ampleur à Atlanta ces dernières semaines. Je suis pas vraiment fan de ce joueur que je trouve un peu trop surcoté par rapport à ce qu'il vaut vraiment, mais voilà. Donc je milite vraiment pour Beasley, même si le choix n'avait pas encore été fait il y a 20 secondes de ça.
Bon, je ne sais pas si ça te rassurera ou t'encouragera, mais en tout cas, la mock draft de Jean Actu, c'est Vic Beasley à Atlanta.
Bien vu, Thomas.
Donc comme ça, ça va dans le bon sens, il est toujours disponible. Thomas, Erwan, je sais plus, je m'embrouille dans tous les prénoms des gens que je côtoie. Et Raphaël, s'il te plaît, qu'est-ce qui se dit sur le chat?
Alors, qu'est-ce qui se dit? Bah écoute, là pour le moment, on est dans une petite période calme. Ça parle de running back pour le moment. Les gens se demandent si Gurley va partir du côté des
Gurley,
Dolphins.
Ce sera une des intrigues de cette draft. En tout cas, moi, ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a toujours pas d'échange. Je me suis habitué à ce rythme démentiel des trades, et puis là, on est dans notre train-train,
peut-être
ça s'enchaîne.
Peut-être qu'il y a tenté de trader, hein. C'est pas impossible. Encore une fois, ils ont vraiment beaucoup de besoins, et même s'il y a un joueur qui a clairement clamé haut et fort qu'il voulait jouer pour Atlanta, et même si Atlanta a besoin de ce style de joueur...
Ah oui, c'est vrai que c'est Beasley qui l'avait annoncé.
Oui, ouais, tout à fait. Bah, il est originaire de Géorgie, si je ne me trompe
Parfait.
Pas. Donc voilà, et puis il a déjà évolué... Et puis c'est un joueur, encore une fois, qui évolue un petit peu dans le style de Bruce Irvin ou Von Miller. Von Miller, il a été coaché par l'actuel coordinateur défensif d'Atlanta. Et Bruce Irvin a été coaché par l'actuel head coach des Falcons, Dan Quinn. Donc il y a des connexions qui se font comme ça. Maintenant, ils peuvent très bien descendre dans la draft pour récupérer un peu plus de joueurs, pour compenser un peu plus de besoins.
On arrive tout doucement au premier tiers de cette draft. Jameis Winston a été le premier joueur sélectionné. Marcus Mariota en 2. Dante Fowler à Jacksonville. Amari Cooper à Oakland. Brandon Scherff à Washington. Leonard Williams chez les Jets. Et Kevin White. Je ne dis pas de bêtises sur le prénom, j'ai eu peur de mon bruit. C'est Kevin White. Voilà. Kevin White à Chicago. Nous en sommes au 8e choix avec Atlanta. Derrière, qui va-t-on retrouver? Mais je crois que c'est Raphaël. C'est Raphaël qui viendra au micro. Ça va s'enchaîner en fait.
C'est ça.
Alors, je disais que Raoul représentera les Chargers. Où est-ce que vous êtes, Raoul ? 17e. Et ce sera 29e choix. Ce sera plus loin pour Nelson. Et comme tous les ans, Camille, on ne l'entendra pas, puisque les Seahawks n'aiment pas le premier tour. Ça ne sert à rien. On rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc les Seahawks, vice-champions en titre, ne sélectionnent pas au premier tour, puisqu'ils ont échangé leur choix du premier tour contre Jimmy Graham.
T'as raté un très beau hug de Kevin White sur Roger Goodell.
Le choix des Falcons est dans la boîte. En tout cas, la tension monte du côté de Greg qui croise les doigts, qui se tient la tête. C'est... Bon, en tout cas, les rumeurs courent même derrière mon dos. Là, j'entends Raoul qui parle.
Nelson me dit Shane Ray. Je n'espère pas.
Bon, en tout cas,
je n'espère pas.
Alors, ne commencez pas à nous souffler ce que soufflent les insiders américains, là, les deux derrière. Nous, on veut la surprise et on veut de l'émotion. S'il vous plaît. Parce que nos confrères américains gâchent un peu le plaisir quand même des fois en nous annonçant tout ça sur Twitter. On veut vivre ça en direct. En tout cas, ça attend toujours un petit peu. Bon, Shane Ray, c'est un pass rusher aussi. En tout cas, on est passé sur de la défense. On va voir si ça se confirme puisque...
Ce qui m'étonne, et c'est ce qui aurait changé au sein de l'organisation d'Atlanta, c'est qu'ils sélectionneraient un joueur qui a eu des problèmes hors terrain. Mais bon, on va le savoir tout de suite.
C'est vrai que Michael Vick les avait vaccinés normalement. Et avec le 8e choix, les Falcons choisissent Vic Beasley, defensive end de Clemson. Et il s'était bien planté du coup de nos confrères, puisque c'est Vic Beasley qui est là. Et je vais vous donner tout de suite ses mensurations à Vic Beasley. Il fait 1m91 pour 112 kilos. Et la saison dernière, c'était 12 sacs, 34 plaquages, 21 sacs pour perte, 2 passes défendues et 3 fumbles forcés. Alors, heureux.
Heureux. Bon, on attendra d'avoir confirmation de tout son potentiel, mais c'est un des meilleurs premiers pas, je dirais. C'est un joueur vraiment très explosif en termes de pass rush. Un des meilleurs sackers également en rang universitaire ces dernières saisons. Très bonne technique, excellent en poursuite. Il y a peut-être quelques petites choses à perfectionner sur le run-stop et également en termes de puissance, parce que c'est un joueur qui est plus longiligne que vraiment massif. Mais je pense qu'avec un petit peu de poids, parce qu'il va évoluer dans une défense 43, il y a peut-être moyen de faire du grabuge en termes de pass rush. Mais Atlanta a enfin le sackeur qui lui manque depuis quelques saisons et, comme je disais, depuis le départ de John Abraham.
En voilà une bonne nouvelle pour Atlanta, la reconstruction défensive a commencé. C'est vrai qu'avec Dan Quinn maintenant à la tête de l'équipe, au niveau de la défense, normalement, il y a des beaux espoirs qui sont permis.
C'est ça. Normalement, il y a un peu mieux. Comme je disais, il y a toujours quelques besoins à compenser. Je parlais de différents postes. Il y a le poste de safety également qui va être à considérer à Atlanta, vu que Desmond Southward va être décalé en corner. Donc voilà, mais bon, ça présage de bonnes choses après une free agency que j'ai trouvé un petit peu mitigée.
Est-ce que tu crois que Vic Beasley avait été prévenu parce qu'il a quand même, un costard avec beaucoup d'accent rouge et noir hein.
Bah, comme je te disais, ouais, ça a été un petit jeu de séduction pendant pas mal de semaines entre Beasley et Atlanta. Et puis, bah,
il aurait été sélectionné par une autre équipe, ça aurait été gênant de rentrer avec ce costume-là quand même. Parce que, donc, pour ceux qui n'ont pas l'image, il est en costume noir avec un col rouge. Ça, c'est assez spécial d'ailleurs comme costard. Et donc, il a même des traits rouges sur le bord des jambes. Donc, ça fait Monsieur Loyal. Et donc, chemise rouge à rayures blanches et cravate noire et rouge avec la petite pince à cravate dorée de travers, par contre, qui est là pour compléter la panoplie. Vic Beasley est donc un nouveau joueur des Falcons. Les Giants sont désormais à l'horloge en 9e position et le choix a déjà été envoyé à la NFL. Donc, on va laisser Raphaël nous présenter rapidement ce dont ils ont besoin.
Donc, alors, ce qu'ils ont besoin, bah, ils ont besoin de monde sur la ligne offensive. Pourquoi pas d'un pass rusher également, d'un safety. Mais vu la rapidité du choix, à mon avis, ça va être le tackle Ereck Flowers. Qui a souvent eu son nom, qui était apparemment dans le top 5 un peu, Jerry Reese, qui devant lui avait Amari Cooper, mais qui est déjà parti, Brandon Scherf, qui est déjà parti. Donc, à mon avis, ça sent quand même Flowers. Après, bon, on sait jamais, mais...
Ereck Flowers est le choix de la mock draft Touchdown Actu. Donc, et Thomas qui se débrouille très très bien. Gardez un œil sur la mock draft Touchdown Actu si vous êtes sur Internet, parce que Thomas s'est très très bien débrouillé, hein. Beasley il l'avait, et les 4 premiers étaient bons, enfin il y a beaucoup de bonnes choses.
Je pense qu'il a le numéro des GM en fait.
Exactement, et même ceux qui n'étaient pas très bien placés, qui n'étaient pas forcément bien placés, sont déjà partis. C'est-à-dire que je crois que son top 8 pour l'instant, ce sont les 8 joueurs qui sont partis. Pas forcément dans le bon ordre, mais il a tous les 8 premiers, il avait bon. Donc comme quoi, chapeau encore à Thomas Silva, à mon avis il va avoir le top 10. Je le sens bien, en tout cas Ereck Flowers, donc en pronostic pour le moment, les Giants. Au niveau des besoins, donc Raphaël, tu nous disais, la priorité numéro 1 ?
Priorité numéro 1, personnellement, moi, ça sera un pass rusher, mais bon, après, c'est discutable. Il y en a pour beaucoup, c'est la ligne offensive.
Vous voulez pas un linebacker un jour ?
Non, franchement, non, c'est pas...
En 9e choix, il n'a pas des masses. Hein.
Non, là, c'est un
déjà,
peu...
Ouais, déjà, puis non, c'est pas... Dans le système 4-3 de Spagnuolo, le linebacker sera pas la pièce centrale.
Le système 4-3 de Spagnuolo, il a quand même autorisé 135 yards au sol par match l'an dernier, donc je sais pas si ça fait partie du
Spagnuolo l'an dernier. Ça a changé, Spagnuolo revient, donc tu vois,
c'est vrai qu'il revient, lui.
Avec des nouveaux schémas, et vraiment, le linebacker, c'est pas la pièce centrale dans ses schémas, lui, c'est une grosse ligne défensive qui va chercher le quarterback. Donc voilà, mais moi, je pense sincèrement que ça serait Ereck Flowers qui sera pris par les Giants, ça me semble... Parce que tout le monde... Ça me semble logique, quoi. Mais j'aime pas ce choix, hein, perso. Mais après...
Ouais, après, comme le disait Raphaël, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins. On en parlait tout à l'heure en off. Moi, il y a vraiment un joueur que j'aime beaucoup, que j'aurais bien dans le top 10, mais je suis pas sûr qu'il atterrira aux Giants. C'est un joueur comme London Collins. Mais voilà, Ereck Flowers sur la ligne. Andy N, il y a peut-être Bud Dupuy qui peut être sélectionné, mais reste à savoir s'il plaît à New York. Ça reste ces possibilités-là.
Et Roger est dans la place, messieurs, dames, avec le 9e choix de la draft 2015. Les New York Giants choisissent
Ereck Flowers.
Tackle de Miami. Et ça fera une nouvelle bonne note pour Thomas Silva dans sa mock draft. Touch en actu, un lineman offensif d'1m98 et 149 kg. Un beau bébé qui peut vous casser le pied en marchant dessus. Il vient de Miami. Raphaël, heureux.
Non, pas spécialement. Voilà, je suis un peu mitigé sur son cas. J'ai l'impression que c'est surtout du physique plus que autre chose pour le moment. Et je sais pas. En même temps, il y avait pas spécialement non plus de joueurs qui me plaisaient. Enfin, à ce moment-là, donc.
Ce qui m'embête un petit peu pour compléter ce que tu dis, c'est que, à mon sens, les Giants avaient peut-être besoin d'un tackle blindside. Parce qu'on sait que Will Beatty est un peu en perte de vitesse sur la ligne.
C'est ça, ouais.
Et Ereck Flowers, justement, un des défauts qui a peut-être été signalé par beaucoup de scouts, c'est l'incertitude concernant son aptitude justement à défendre sur le côté, à protéger sur le côté aveugle du quarterback. Il a l'air très bon pour jouer tackle droit, il est excellent sur le run stop, donc ça peut être une bonne chose pour renforcer le jeu au sol de New York.
Mais c'est clairement le problème, à mon avis. C'est, je suis pas sûr qu'il corresponde en plus vraiment aux besoins de cette ligne offensive qui était surtout aussi très faible au centre à cause de John Jerry en guard. Donc, Après,
il y a peut-être dans l'idée peut-être également de mettre Justin Pugh en left tackle dans le futur.
Parce que BT coûte cher, il est de moins en moins bon. Donc, virer BT en mettant Pugh à gauche et Flowers à droite. On verra. De toute façon, Jerry Reese a les clés.
Le 9e choix est dans la boîte, toujours pas d'échange. Dans cette draft, une petite intervention de Raoul Villeroy qu'on n'a pas encore entendu et qui a, oui, aussi de belles histoires, même pendant la draft. Raoul, à toi l'honneur.
Oui, on vient de voir le choix des Giants et ça va faire plaisir à Raphaël parce qu'en fait, ça fait très longtemps que les Giants n'étaient pas dans ce top 10. Là, ils ont eu le 9e choix. Est-ce que Raphaël, tu le sais forcément, toi qui es un bon fan, depuis quand les Giants n'ont pas eu de choix dans le top 10 de la draft ?
Au hasard, je dirais 2004.
Exactement, Raphaël est un bon fan. Depuis 2004, donc ça veut dire qu'ils étaient plutôt bons sur le terrain. Depuis 2004 et cette fameuse draft, on l'a dit, avec Eli Manning. En fait, les Giants avaient sélectionné Philip Rivers, qu'ils ont ensuite échangé aux Chargers contre Eli Manning. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle pour les Giants.
Merci Raoul pour ces anecdotes. Vous allez en entendre d'autres pendant la soirée. Il y en a plein, bien sûr, toujours plein d'histoires. En NFL, les St. Louis Rams sont maintenant sur l'horloge pour le 10e choix de la draft. Il reste 3 minutes 25, ils ont une super mascotte. Et ils sont à 6 victoires, 10 défaites l'an dernier. Ils ont besoin de receveurs, ils ont besoin sur la ligne offensive, ils ont besoin d'un safety. Ils ont 6 sélections dans cette draft. L'intersaison a été marquée évidemment par l'arrivée de Nick Foles au poste de quarterback en échange de Sam Bradford. Mais pour lancer à qui ? C'est l'éternelle question à Saint-Louis. Kenny Britt, Tavon Austin, Brian Quick actuellement. La ligne, elle a autorisé 46 sacks l'an dernier. La défense contre la passe, c'est 7,6 yards par tentative. Ils sont 22e en NFL. Le besoin prioritaire selon toi, Greg ?
Par rapport à ce que tu viens d'évoquer, j'ai envie de te dire Devante Parker, le receveur de Louisville. Ça coûte rien de rajouter une cible supplémentaire pour être sûr que le jeu aérien va pleinement fonctionner. Maintenant, à mon sens, le besoin le plus prégnant, c'est peut-être le poste de tackle.
Et alors là, ça me donnerait...
Moi, j'aime bien Andrew Spitt. À cette position-là, c'est peut-être justement le... On parlait de Derek Flowers il y a quelques secondes. C'est peut-être le joueur qui présente le plus de capacité pour pouvoir devenir un tackle gauche dans le futur. Donc, pourquoi pas Andrew Spitt. Je pense que ça se joue entre Pitt et Parker, parce que la défense a quand même été bien considérée, notamment avec la signature de Nick Ferley.
Andrew Spitt, oui, c'est vrai qu'ils ont renforcé encore cette ligne qui est déjà monstrueuse. Ils n'arrêtent plus. En tout cas, Andrew Spitt, oui, 10e choix de la mock draft touchdown actu pour le moment également. Raphaël, un petit tour sur le chat. Tiens, ça fait quelques minutes qu'on n'avait pas allé.
Alors, sur le chat, donc, côté Rams, beaucoup se plaignent un peu justement des receveurs en disant que Tavon Austin n'est pas si bon que ça. D'autres disent que c'est parce qu'il est mal utilisé. En tout cas, donc, côté Rams, ça a l'air de vouloir partir sur de l'offensif un peu parce que la ligne offensive là, est assez forte actuellement.
C'est attendant.
Enfin voilà, vraiment on veut de l'offensive du côté des Rams. Et pour les Giants, ça se moque beaucoup du choix de Flowers, donc voilà.
Oh, vous êtes dur. On rappelle qu'en tout cas, les Rams ont déjà sélectionné un tackle en deuxième position il n'y a pas si longtemps, c'était un certain Greg Robinson. Ça s'est pas soldé par une grande folie.
Ouais, alors cela dit, on s'attendait un petit peu à ce qu'il soit pas performant tout de suite, parce que c'était vraiment un projet Greg Robinson l'année dernière, et la majeure partie de la saison passée, il l'a fait en position de garde. A priori, il devrait plus passer en position de tackle, mais il manque quand même un tackle de l'autre côté, au cas où justement Robinson n'est pas capable d'assurer sa position de tackle côté aveugle.
Bon, donc l'idée, à Saint-Louis, ça pourrait être intéressant de renforcer encore cette ligne pour avoir un quarterback qui lance à personne, puisque c'est un peu le concept de Saint-Louis, mais cette année, le quarterback restera en bonne santé pour lancer à personne, ce qui est quand même un concept nouveau par rapport à Sam Bradford.
Cela dit, Nick Foles a été blessé l'année dernière, faut-il le rappeler ?
C'est vrai, on échange les mecs bancals. En tout cas, ça s'approche. Le choix a été envoyé à la NFL du côté de Saint-Louis, donc on ne devrait pas tarder à avoir la réponse. On marquera une petite respiration après ce 10e choix, histoire que Camille puisse trancher dans le vif et faire une partie 1 du podcast. On va découper ça tranquillement après. En tout cas, ce live continue. Merci à vous de nous suivre encore pour cette 4e année sur Touchdown Actu. Raphaël, une remarque peut-être ? Je te vois t'agiter devant le micro.
Non, rien, des réflexions personnelles sur les Giants, c'est pas très...
Ah, réflexions personnelles sur les Giants.
Non mais parce que Justin Pugh, c'est plein cette saison en disant qu'il voulait passer du poste de guard au poste de tackle, sauf que là, a priori, avec la sélection de Flowers, il va rester en guard. Donc garder un joueur qui n'est pas content de la place où il va jouer, tu vois, c'est jamais très...
Bon, ils vont peut-être se battre un peu au camp d'entraînement, vous verrez.
Ah ouais, mais si on prend Flowers pour le mettre en guard, enfin, il n'y a plus vraiment d'intérêt, quoi.
C'est la magie de la draft, tu sais.
Débrouille-toi avec ça.
Non mais... Bon, en tout cas, Andrew Spitt est annoncé en 10e position dans notre mock draft. Les Rams ont fait leur choix. On le rappelle, cette équipe, elle a des besoins, elle a des besoins sur les postes de receveur, sur la ligne offensive et dans le backfield défensif, en tout cas au poste de safety. Et Nick Foles est la grosse arrivée de cette équipe. On attend toujours ce choix et on rappelle toujours pas d'échange. Moi, c'est ma petite déception de cette draft. 10 choix, pas d'échange. On a eu encore une hype folle avec des rumeurs dans tous les c'est sens ça. Et pas un qui bouge. Ça me rend fou à chaque
fois. Et pas un seul pick des Eagles dans le top 10.
Et pas un seul choix des Eagles. Ouais. C'est vrai, ça. C'est vrai. Oh, ils ont des vrais. Hey, ils en ont qui sont bien déguisés quand même. Hein. Les supporters des Rams, là, qu'on a à l'écran. Celui avec la tenue intégrale, le casque, la visière et tout, là, il est au taquet. Roger Goodell vient nous annoncer le choix des Rams. Avec le 10e choix de la draft 2015, les Rams de Saint-Louis choisissent
Todd Gurley,
le running back. Il est là, on n'en avait pas encore beaucoup parlé de Todd Gurley. Et ben le voilà, le premier coureur choisi dans cette draft. Et là, on les voit exulter, les supporters de Saint-Louis. On parlait de régler des problèmes en attaque, on n'avait pas pensé running back forcément immédiatement. Et pourtant, Todd Gurley, pas un choix illogique, 1m85, 101 kg. Il n'a joué que 6 matchs, mais en 6 matchs, 123 courses, 911 yards, 7,4 yards par course et 9 touchdowns au sol. Il revient d'une blessure, déchirure du ligament croisé antérieur. Officiellement, il va très bien, les visites médicales se sont bien passées. Il est même en route pour peut-être jouer le premier match de la saison. 10e choix de la draft pour Todd Gurley. Greg, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est une bonne affaire pour les Rams?
Alors, je suis un peu partagé sur ce choix-là parce que je commence à me demander combien de running back les Rams vont empiler. Ils ont quand même drafté Zach Stacy deux saisons qui n'a pas été mauvais depuis qu'il a été sélectionné. Ils ont drafté Trey Mason l'année dernière, qui était le meilleur running back des Rams, donc en 2014. Prendre un troisième running alors qu'il y avait d'autres besoins, c'est un peu curieux. Après, Todd Gurley, ceux qui l'ont vu jouer en universitaire, c'est un joueur fabuleux. C'est un joueur qui est rapide, puissant, qui a vraiment une vision pour attraper les espaces, qui prend des angles absolument phénoménaux. Je me rappelle de ce jeu à South Carolina où il est complètement isolé sur l'aile gauche et il arrive quand même à contourner 8 défenseurs pour aller chercher un first down. Donc voilà, c'est un joueur qui mérite sur le papier sa place de top 10. Maintenant, sa problématique, comme tu le disais, c'est qu'il n'a jamais fini une saison universitaire.
Ouais, moi je suis assez dubitatif. C'est quand même un joueur qui revient d'une blessure assez sérieuse, même si maintenant on guérit d'un ligament croisé, comme on guérit d'une angine, visiblement. Mais c'est quand même une blessure très sérieuse. Et quand on voit la dévaluation du poste de running back ces dernières années, un top 10 sur un joueur en plus qui revient d'une sérieuse blessure comme ça, moi ça me laisse un peu étonné. C'est un joueur qui est extrêmement spectaculaire, qui est extrêmement fort, qui est explosif, qui peut faire plein de choses, qui peut retourner. On l'a vu, c'était sur le match d'ouverture de la saison, qui retourne pour un touchdown. Voilà, bon, il est vraiment énorme. Top 10, c'est peut-être la première surprise de cette draft, en tout cas, et à Saint-Louis.
Ouais, alors je vais peut-être pas piquer le rôle de Raoul, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de running back drafté au premier tour de la draft.
Tu l'as cette stat-là ou pas, Raoul?
Ah non, alors là, je suis grillé par Greg.
Ça fait quelques années, mais je crois que Trent Richardson les avait vaccinés un peu tous.
Je crois que le dernier, ça doit être Doug Martin.
Il y a très bonne chance pour que ce soit ça. On va marquer une petite pause parce que c'est le 10e choix. On revient juste.
Attends, je te donne juste quand même les réactions sur le forum très rapidement. Pas content. Les gens trouvent que drafter un running back au premier tour, c'est plus utile. Et comme le fait très justement remarquer Taro, drafter un running back quand tu affrontes dans l'année deux fois les 49ers, les Seahawks et les Cardinals, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un running back? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir s'épanouir là? C'est pas certain.
Moi, je t'avoue que je suis pas choqué par ce choix au sens que c'est de l'attaque. Ils ont besoin de playmaker en attaque, c'est Rams. Pourquoi pas? Après, c'est très osé, mais pourquoi pas? On marque une petite respiration. On revient juste après ça.
first pick in the draft, the Indianapolis Colts select.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.